C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Nathalie Normando, bonjour.
Bonjour.
Luc Ferrandaise, bonjour.
Salut.
Alors, on va... deux sujets aujourd'hui, encore une fois, mais le premier risque de faire des étincelles. Est-ce qu'Hydro-Québec a raison de vouloir augmenter les tarifs des clients industriels, le fameux tarif L, Nathalie?
Ah, c'est la question aujourd'hui, Louis. Oui, cette idée a été lancée par la grande patronne d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Et moi, comme ex-ministre des Ressources naturelles, j'ai réagi non pas sur l'idée d'augmenter les tarifs pour les grands clients industriels, mais le fait que ça vienne, que l'idée vienne de la grande patronne d'Hydro-Québec. Parce que généralement, ce genre de débat de société, appelons-le comme ça, appartient au gouvernement et non Hydro-Québec. C'est le gouvernement, faut-il se le rappeler, qui détermine les grandes orientations sur le plan énergétique. Alors,
Mais c'est parce que c'est aussi un moyen de faire du développement économique, si je me trompe.
Ben oui, mais ça appartient au gouvernement.
Ouais.
Alors, ben je comprends que, puis j'ai beaucoup d'estime pour Sophie Brochu, elle fait un travail absolument formidable. Première femme, faut-il le rappeler, être à la tête d'Hydro-Québec. Mais cette responsabilité, elle appartient à Hydro-Québec. Puis j'insiste là-dessus parce que avant de faire cette sortie, elle aurait pu très bien informer le bureau du premier ministre, le ministre des Ressources naturelles, avant de lancer ça dans l'espace public, parce que ça peut placer le gouvernement dans une position inconfortable sur la défensive, étant se sentant obligé d'aller sur un terrain pour lequel il est plus ou moins confortable. Mais sur le fond, effectivement, l'idée mérite d'être discutée.
Ah, mille bravos à Mme Brochu. Hourra, hourra. Hey, Richard, pourrais-tu nous trouver quelque chose, là? Un hourra, Mme Brochu, composer une chanson spéciale 98,5, parce qu'on va voir à la passer souvent, je pense.
Fred aujourd'hui, Luc.
Ah, c'est Fred. Fred, pourrais-tu nous organiser ça? Il est dans mon dos, je le vois pas. Parce que, enfin, qui apprend ses aises comme directrice générale, j'attendais ce moment-là depuis longtemps, parce que le gouvernement, en dessous de la couverte, sans que personne s'en rende compte, en train de dilapider les ressources hydroélectriques, mais à vitesse grand V, là, une horreur, je vais en parler tantôt.
Et ben là, voyons donc, dilapider les ressources naturelles.
Je vais faire la démonstration tout de suite.
Ouais.
Alors, on parle de transition énergétique, tu sais. Transition énergétique, on veut plus de voitures électriques, on veut plus d'autobus électriques, de camions électriques, on veut le REM, on veut des tramways, etc. On veut électrifier la patente et d'ici 2050, mais ça commence tout de suite, on veut 1,5 million de voitures électriques, mettons, à peu près à l'horizon 2030. Pendant ce temps-là, le gouvernement, lui, je comprends de vouloir se libérer des surplus d'Hydro-Québec. 40 TWh. 40 TWh, c'est un quart de la consommation du Québec. Et là, a fait des ventes de feu. A attiré des centres de données pour 500 mégawatts à l'horizon 2029 de consommation. De la crypto-monnaie pour 600 mégawatts à l'horizon 2029, même s'ils ont mis une directive pour limiter à 300 mégawatts le développement potentiel dans les prochaines années. Néanmoins, ça, là, 500 puis 600 mégawatts, là, c'est des blocs d'énergie, là. Pour te donner une idée, un bloc de 500 mégawatts, c'est suffisant pour faire toute la transition électrique. Toutes les voitures électriques. Les autobus électriques, le REM, tout d'ici l'an 2030, c'est un bloc. Alors, on brûle la ressource avant d'arriver à la transition électrique. Et quand on va arriver, il va falloir faire des nouveaux moyens de production, nouveaux barrages, nouveaux parcs d'éoliennes. Et ça veut dire quoi? Si tu veux faire pour 100 TWh de parcs éoliennes pour l'an 2050, le Québec va être couvert de fils électriques. Couvert à grandeur.
Ouais, mais Hydro-Québec dit aussi qu'on est capable d'aller chercher davantage de ressources en faisant, par exemple, une meilleure efficacité énergétique.
Louis, il faut que je te réponde là-dessus. Excuse-moi, Nathalie, parce que je prends un peu trop de temps, puis je vais te le redonner après. J'ai téléphoné à Hydro-Québec. Il y a un an et demi, je me doutais bien qu'Hydro-Québec, que Legault, dans sa grande volonté de développement économique, l'enrichissement, etc., ce qu'il voulait surtout, c'était construire des nouveaux barrages. Puis là, comme il y avait un surplus, il pouvait pas le faire. Puis de l'éolienne, puis il pouvait pas le faire. J'aurais demandé, est-ce que c'est ça la stratégie? Est-ce que c'est de brûler de l'énergie pour construire à nouveau? Ils m'ont dit non, vraiment pas. On peut te le garantir. Ils m'ont écrit. Je l'ai par écrit. C'est la voix officielle d'Hydro-Québec, il y a 3 ans. Non, on n'aura pas besoin de ça parce qu'on a tellement de surplus. Et par ailleurs, si jamais on brûlait nos surplus, on va faire de la restauration de centrales parce que les turbines, quand l'eau passe dedans, ils s'usent. Puis en les refondant, tu arrives à sauver énormément d'énergie. Avec ces deux moyens-là, on n'aura jamais besoin de nouveaux moyens de production. Mais ils en ont tellement dépensé, puis ça pourrait être en dépenser autant dans les prochaines années, que là, ils nous annoncent que d'ici 2027, ça prend des nouveaux moyens de production.
Ben, tout d'abord, Luc, on ne dilapide pas les ressources d'Hydro-Québec, notre hydroélectricité. Non, non, ne la dilapide pas et ton enflure verbale nous écarte de la réalité.
On dilapide. Je viens de te donner les données sur les crypto-monnaies.
Non, mais attends, je vais apporter un autre point de vue que le tien, mon cher Luc. Dilapider, c'est beaucoup trop fort. Les clients industriels, tu sembles oublier que ça a créé des emplois au fil des années au Québec. C'est les Alcoa, c'est les Rio Tinto, c'est les grandes séries, les grands clients industriels, là, c'est la base industrielle de l'économie du Québec. Là. On ne peut pas nier leur contribution sociale économique. Eux, ils consomment 20% de toute l'électricité qui est vendue au Québec. Ce que Sophie Brochu nous dit aujourd'hui, c'est dans un contexte où notre énergie va se faire de plus en plus rare, où on ne veut pas construire d'autres barrages, il faut l'utiliser plus intelligemment, étant entendu que jamais le Québec n'a été autant sollicité par des entreprises qui, elles, ont besoin d'une quantité d'énergie incroyable. C'est du jamais vu pratiquement pour Hydro-Québec. Tu parlais de crypto-monnaie, mais il y a d'autres entreprises. L'électrification des transports et tout ça. Jamais on a été autant sollicité. Donc, on a un choix de société à faire. Et ce choix, quel est-il? C'est de dire le tarif L aux grands industriels qu'on vend 5 sous du kilowattheure, puis qu'on va payer peut-être, puis si on développe des nouveaux projets ou on développe de nouvelles initiatives, puis ça va nous coûter 11 sous du kilowattheure, ben ça va devenir inacceptable qu'on continue d'offrir un tarif si bas pour les grands clients industriels, étant entendu que produire de l'électricité dans le futur, à partir de 2027 et les années subséquentes, va nous coûter beaucoup plus cher que ce qu'on a fait par le passé. Alors, bon, la question, effectivement, est tout à fait pertinente pour assurer une équité avec les clients résidentiels que nous sommes, pour assurer une équité par rapport à ce qu'elle va nous coûter de produire l'électricité, devrions-nous pas réduire les tarifs aux grands clients industriels? Moi, j'ai dit, OK, peut-être, mais il faudra être hyper stratégique parce que là, ce qui va se passer, c'est que les Alcoa de ce monde, les Rio Tinto, les grands clients vont dire un instant, nous, notre avantage concurrentiel par rapport aux autres compétiteurs de la planète, ben c'est notre entre autres pose sur le fait d'avoir accès à des coûts d'électricité qui sont très 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 compétitifs. Alors on va perdre cet avantage.
Parlons-en des alumineries. Les alumineries ont signé ce qu'on a appelé les contrats secrets il y a plus de 25 ans maintenant, dans lesquels on est allé bien en bas du tarif L. L'entente avec les alumineries c'était on vous donne ce tarif là. On n'a jamais su c'était combien, mais on sait que c'est autour de genre 2 cents ou quelque chose comme ça. Et alors que là, tu viens d'entendre Nathalie là et Mme Brochu, ça nous coûte 11 cents les nouveaux développements. Là. La nouvelle énergie à produire, là, c'est 11 cents du kilowattheure. On leur vend ça en bas de 5 cents ou peut-être autour de 2-3 cents. Bon. Et on leur a dit, ouais, mais ça crée de l'emploi. Et dans 25 ans, quand vous allez être installé, quand vous allez avoir assez de vos profits, etc., là, l'État va se reprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, des alumineries? Ils sont venus les voir, puis ils ont dit, regardez bien, si vous ne nous signez pas les mêmes contrats exactement avec les mêmes tarifs, on s'en va. La menace à l'emploi. Or, il se trouve qu'on en a plus besoin de ces emplois qui nous coûtent une fortune, qui polluent à mort.
Va
voir le taux de chômage.
Va dire ça aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ben oui,
elle est mise aux milliers d'emplois à Deschambault.
Je sais, Nathalie, le problème de la droite, c'est cette espèce de menace à l'emploi et de menace au retrait des investissements. La minute que tu veux faire quoi que ce soit, je vais vous faire payer l'électricité au juste prix, menace. Je veux que vous respectiez l'environnement, menace. Je veux que vous respectiez les cours d'eau, menace. C'est ça la droite.
Il ne s'agit pas d'une menace, là, qu'il s'agit d'une réalité. Tu ne peux pas augmenter les tarifs auprès de ces grands clients industriels sans composer avec des impacts, Luc. C'est ça
tu
la réalité.
Il ne s'agit
pas de menace. Parce que le
comme
monde dans
disais,
lequel.
Si tu ne leur donnes le pas monde, le faire à une Sanatone, ils vont s'en aller.
Le monde dans lequel, aujourd'hui, ces grands joueurs gravitent est bien différent d'il y a 25 ans.
Ce sera le mot de la fin, Nathalie.
Ben oui, voilà. En fait, j'adore mon ami Luc, là, mais des fois, Luc utilise des raccourcis. Ça semble tellement simple.
Toi, c'est la vérité. Moi, c'est le raccourci.
Non, j'ai pas le monopole de la vérité, sauf que Luc, la réalité est beaucoup plus
nuancée. J'ai pas le monopole de la réalité, sauf que la réalité, c'est. Tu viens de le dire.
On va régler ça dans le jello tout à l'heure. Alors.
La commission Normando-Ferrandaise.
Parlons maintenant de gaspillage alimentaire. Il y a une dernière étude qui révèle que 96% des surplus alimentaires s'en vont à la poubelle. Alors, est-ce que le gouvernement doit légiférer pour empêcher le gaspillage? On commence avec Luc, tiens, là-dessus.
Tu sais que ça fait un bout de temps qu'on parle de ça, hein? Ça fait 40 ans à peu près. Ouais. Et 20 ans déjà, il y avait une mode qui était commencée, des gens, des déchetariens, donc des dumpster diving en anglais, des gens qui allaient dans le conteneur en arrière des épiceries, puis ils trouvaient toutes sortes d'affaires. Puis moi, j'en ai connu des dumpster
divers. Mais ça se fait à Montréal
oui,
aussi.
Oui, ben oui. Parce que tu sais, ils jettent pas juste des bananes pourries, là. Ils jettent des pots de noix, ils jettent des desserts, des friandises, des choses qui se gaspillent pas. Mmh. Alors mais depuis l'industrie s'est bien pris en main là. Il y a eu énormément d'efforts qui sont faits de partout, dans les épiceries, dans les restaurants, à l'agriculture, il y en a aussi. Le résultat, c'est que t'as beau faire des efforts tant que tu veux là, il y en aura toujours beaucoup de gaspillage. Les rapports de la FAO disent que ça serait presque la moitié de la production mondiale qui se perd à un moment donné, soit au moment de l'agriculture parce que les produits sont pas parfaits et peuvent pas être vendus. Ouais. Ensuite de ça, t'as le transport, t'as les pertes, après ça t'as le commerce de détail, puis après ça t'as la maison. La maison, c'est à peu près 20% de la perte au total. Ben, c'est une évaluation grossière. Il y en a qui la remettent en cause, mais 20% de la perte, c'est causé par nous. On le met dans le frigidaire. C'est ma fameuse recette de zucchini. Moi, je te l'ai dû compter. T'achètes 4 zucchini, t'es mets dans le fond du frigidaire, t'attends qu'ils pourrissent, t'es jettes, t'en rachètes 4 autres parce que je fais ça. Moi, c'est ça ma recette de zucchini. Fait que, mais il y en a beaucoup qui ont la même recette. Et la viande, dès qu'elle est un peu brune, n'importe quoi, tu sais, on jette. Le yogourt, les produits laitiers, le pain, un peu trop sec, etc. Alors, sur l'ensemble de la chaîne, il y a eu la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu énormément de solutions qui ont été appliquées. Une des solutions récentes, bon, l'une des premières solutions, là, c'est la date de péremption. Pour nous, consommateurs, là, la date de péremption, il y a deux dates en France. La date meilleure avant, puis la date plus bon pantoute.
Ouais.
C'est la date finale. Entre les deux, des fois, il y a 10 jours, des fois, il y a 4 semaines. Mmh. Tu dis, jette-le pas le jour de la... Mais ça, c'est une des solutions. L'autre solution, c'est toutes les applications Food Hero et compagnie. Il y en a au moins 5 ou 6, là, qui... puis chaque grande chaîne développe la sienne. Ça leur permet de faire quoi?
Ouais.
Ça leur permet de... Ils t'envoient un courriel pour te dire, attention, nous autres, on a tel produit qui est sur le point de passer date et on le vend à 50% de réduction. Là, ça commence à compter.
Ouais.
Et des applications, je t'en parle, il y en a d'autres aussi. Je vais laisser la parole à Nathalie. Ouais. Puis ça, c'est une des pistes de solution.
Nathalie, toi...
Merci pour ta galanterie, M. Ferrandez.
Est-ce que tu gaspilles ou tu es très consciente d'essayer de préserver...
Je suis très, très consciente et je suis très frustrée de savoir que parfois, je dois jeter des aliments à la poubelle. En fait, cette étude révèle... c'est le revers de vivre dans une société riche, mais malheureusement, qui met en lumière un scandale. Parce que pour moi, c'est un scandale de savoir qu'il y a autant de gens au Canada, au Québec. Je vous rappelle qu'il y a des banques alimentaires partout au Québec là, qui composent avec une explosion des demandes d'aide à chaque mois. Moisson Québec composé avec des demandes de 50 000 à chaque mois. Là. On est passé en quelques mois de 35 000 demandes à 50 000 demandes d'aide alimentaire par mois. C'est énorme. Combien d'enfants au Québec ne mangent pas à leur faim? C'est un scandale. C'est un scandale qui se répète à chaque année. Alors moi, je crois qu'effectivement, on est rendu... Là où on doit aller, c'est-à-dire le gouvernement doit intervenir pour adopter une loi sur les invendus. Luc, tu as parlé de la France, là, c'est une référence en la matière. Une loi sur les invendus pour les produits non alimentaires. Ils ont adopté également une loi sur les invendus pour les produits non alimentaires qui était effective depuis janvier dernier, mais une loi sur le gaspillage alimentaire qui est effective depuis 2016. Alors, oui, il faut s'en inspirer parce que c'est mauvais, ça envoie un mauvais signal à notre société parce que toute une partie importante de cette nourriture pourrait être consommée, pourrait être récupérée par les Moissons Québec de ce monde. Remarque, ça se fait déjà, mais pas suffisamment. Alors, il faut redonner un tour de roue, puis ça, je pense que sans l'aide du gouvernement, on n'y arrive pas.
Il y a aussi des épiceries où ils font des produits maison. Mettons, t'achètes la sauce à spaghetti qui est faite.
Oui.
Ils vont récupérer justement des produits, par exemple, comme le bœuf haché qui arrive à sa date limite. Là,
des fois, il n'est pas à la date limite. Il est à la date limite esthétique. C'est-à-dire esthétiquement, il est moins beau. Il est moins rouge en surface. Mm. Mais il est encore très bon. Fait que oui, ils font une sauce à spaghetti avec. Il y a beaucoup d'épiceries qui font des efforts. Là, parce que de dire, les épiciers perdent de l'argent quand ils jettent. Là. Ils font des efforts. L'autre truc important, c'est le signal de prix. Le signal de prix, là, si ça coûtait plus cher pour aller porter des choses au dépotoir, d'une part, et si À partir du moment où on met une taxe sur les produits apportés au dépotoir dans une loi qu'évoque Nathalie, un coût pour le déchet, donc les prix montent, les gens vont gaspiller moins aussi. Et déjà, juste par l'inflation, les gens vont gaspiller moins aussi. Le signal de prix, tu vois, ça, c'est une solution typiquement néolibérale, là, mais ça, dans ce cas-là, ça fonctionne très bien. Une autre affaire, c'est les ententes avec les soupes populaires, là, les gens qui distribuent de la nourriture comme Moisson Montréal.
Oui, oui.
Bon, les Moissons Montréal de ce monde, là.
Les banques alimentaires.
Ouais. Et la plupart des épiceries ont des ententes avec les banques alimentaires. Alors, je parlais des applications tantôt, là. J'ai dit qu'il y avait Food Hero, puis il y a aussi Flash Food, il y a Too Good To Go, il y a Second Life. Ils ont tous pris des noms anglophones, mais là-dedans, la moitié, c'est des inventions québécoises. Alors, Second Life, par exemple, te met en lien avec un agriculteur, des agriculteurs qui disent, ouais, moi, je produis des poires, je produis des pommes, je produis des tomates, mais il y en a qui esthétiquement ont pas la tronche pour se rendre sur l'étagère et il te les fait à un prix qui est parfois le tiers du prix. Les autres, comme Too Good To Go, c'est des repas ou des produits fabriqués, transformés de la boulangerie, des desserts, des produits transformés à un tiers du prix.
Ouais.
Donc, et chez des boulangers. Alors, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de s'intéresser à toutes ces applications-là. Puis, finalement, t'as des plus loin dans la chaîne, des groupes comme la saison 2 qui donnent une deuxième vie à des produits. Donc, la drèche, par exemple, qui est utilisée dans les brasseries, ceux qui font la bière, pas les brasseries de la vente, ils l'utilisent pour faire un autre produit, ou ils l'utilisent pour faire des biscottes, ils l'utilisent, ou alors on récupère des fruits presque plus bons pour faire des salsas, etc. Ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui vont dans ce sens-là.
Nathalie?
Mais la liste des initiatives, Luc, est très, très longue. La tablée des chefs également fait un travail absolument extraordinaire. Mais lorsqu'on sait que chaque Canadien en moyenne envoie à la poubelle 175 livres de nourriture, ça, c'est en pur gaspillage. Je me dis, on va parler de ce sujet-là encore et encore pendant de nombreuses années. Il faut, à un moment donné, passer à l'action parce que les initiatives locales, régionale, semble ne pas suffire. Dans cette fameuse étude qui a été publiée, lorsqu'on dit que 96% des surplus alimentaires sont jetés aux poubelles au pays, ça, c'est l'équivalent là de 124 000 camions de nourriture qu'on jette à chaque année. J'utilise, l'image est forte, là, oui. Mais ça nous permet d'illustrer l'immensité du scandale. Puis lorsqu'on sait également 45% des gens, des industriels là, ou des transformateurs qui disent, ben moi, je jette presque la moitié de ce que je produis, parce que ça correspond pas au standard de l'industrie. Ouais. Tu sais, la tomate que je produis, le poivron que je produis,
qui est aussi bon que les
autres. Ça va bien se vendre.
C'est ça, qui est aussi bon que les autres,
exact.
Sauf qu'il est peut-être un peu poqué.
Exact.
Ou difforme.
Voilà. Ouais. Fait que Alors, je me dis, il faut casser cette culture-là, parce qu'on vit dans un monde, effectivement, parce qu'on est dans une société riche, on se permet de gaspiller à outrance. Moi, c'est pour ça que je plaide pour une loi. Elle pourrait s'inspirer de la France, peut-être pas un copier-coller, parce qu'en France, ils sont allés très, très, très loin. Mais moi, je pense que le gouvernement devrait intervenir et j'espère que lors de la prochaine campagne électorale, les principaux partis politiques auront le courage d'aller sur ce terrain-là. Parce que là, Luc, tu l'as dit, ça fait des années qu'on parle de ça. Mais maintenant, peux-tu arrêter d'en parler puis de serrer la vis aux agriculteurs, grossistes, transformateurs, etc.
C'est même dans le rapport du GIEC en disant que c'est une des solutions pour économiser les ressources.
Oui.
Bon, ben écoutez, vous entendez ce sujet-là.
C'est plat. On va en prendre un.
Non, mais on s'adore. Pour les auditeurs, là, sachez qu'on ne. Non, mais on ne joue pas la comédie. C'est important de le souligner.
Ouais.
Et puis, on n'est pas du tout.
Deux,
on n'a aucune rancune. Oui, ouais, puis on n'a aucune rancune. Ouais. Aucune.
Vous aurez l'occasion de recroiser le fer demain?
Oui, avec plaisir.
Hein? Oui.
Salut, à demain.
Bye.
C'est 23.